Cheveux mous, dévitalisés, cheveux fins qui manquent de force? Voici Phytophanair, le complément alimentaire riche en vitamines B, C et E, zinc, huile de bourrache et extrait d'acérola pour des cheveux en meilleure santé. C'est le complément idéal des traitements anti-chute. En seulement 3 mois, vos cheveux retrouvent force, croissance et volume. Phytophanair, numéro 1 des compléments alimentaires cheveux et ongles en pharmacie et parapharmacie. Source IQVIA, chiffre d'affaires cumulé Europe, juillet 2019, juin 2020. Pour votre santé, bougez plus.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Au menu du jour, comme chaque dimanche, une madeleine à 12h15, Matteo Caranta recueille les souvenirs culinaires de personnalités et aujourd'hui, il nous propose un clin d'œil à la Chandeleur qui avait lieu le 2 février dernier. Et pour notre plat du jour, direction le sud de la France et plus précisément la Provence, à la découverte de ces saveurs qui sentent bon le soleil, les cigales et l'accent du midi.
On l'a vu qu'on mettait du fenouil en aioli.
Mais si ça y paie le fenouil.
Attention, la vraie recette de l'aioli, c'est des haricots verts, des carottes, des patates, du chou-fleur, œufs durs, bacala et bafla.
Bien sûr.
Mais vous me faites rire. Si ça y paie le fenouil, ça me fout de la recette.
Mais il n'y a qu'à mettre des radis aussi.
Et pourquoi pas?
Ne me regarde pas, tu le fais tomber.
Non, tu l'as fait tomber.
Quoi?
Ben oui, attention, toi tu dis... Un aioli, on ne dit pas un aioli, on dit une aioli.
Alors moi je dis comme je veux. Et me parle pas, tu le fais tomber.
Oh putain, tu vas voir si j'ai la montre, moi. Tu peux faire ce que tu veux autour. La danse du scalp, le grand écart, et tu verras, elle monte.
Oh, tourne.
Et je tourne, j'arrête pas.
Attention, et toi, c'est pas les chutes du Niagara, là, que tu nous fais. Oh.
Avec nous pour parler de l'aioli et des saveurs provençales sur cette scène de l'espace Cardin à Paris, Catherine Rouague, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes journaliste culinaire et autrice. Le dernier gros livre que j'ai transporté avec moi jusqu'ici s'intitule Provence, food trip ensoleillé en 100 recettes. Il a paru chez Hachette et c'est un livre dans lequel on trouve notamment notre deuxième invitée avec nous, Nadia Samut. Merci beaucoup d'être avec
bonjour.
Nous. Vous êtes montée de votre Provence, vous êtes chef étoilée de l'auberge La Fenière, sise alors entre les villages de Cadenet et de Lourmarin, pour être très précis, on est au cœur de la Provence, de Giono, de Jean Giono. On est au pied du Luberon, on est grosso modo, pour ceux qui ne sont pas de la Provence, à 30 km d'Aix-en-Provence, à 60 km de Marseille et à 45 km d'Avignon. Vous voyez, j'ai révisé ma géographie. Vous êtes, vous, l'autrice d'un livre que j'ai aussi apporté, qui est un petit peu moins lourd, mais tout aussi riche que celui de Catherine Rouague, « Construire un monde meilleur », il a paru aux éditions Actes Sud. Alors on entendait cet extrait sur la recette de l'aioli tiré du film de Robert Guédiguian, Marius et Jeannette. Bon déjà, on dit un ou une aioli? Nadia Samu.
On dit, moi je dis l'aioli, donc c'est un.
L'apostrophe.
Moi aussi.
D'accord. Alors on parlera de l'aioli. La vraie recette était la bonne, celle qu'il donnait dans l'extrait.
Chacun la sienne, mais les fondamentaux sont essentiels. J'ai l'impression que c'était la bonne.
Catherine Rouague.
Oui, je pense. Encore une fois, c'est comme la bouillabaisse. Hein. Chacun a sa recette.
Voilà, ça va être difficile. Oui. Chacun sa recette, chacun son territoire. On va essayer quand même d'essayer de tracer les contours de ces saveurs provençales. Bah, quel est le premier mot qui vient à vous quand on parle de saveurs provençales, Catherine Rouague?
Pour moi, c'est l'huile d'olive. Vraiment, l'huile d'olive, c'est le produit qui, pour moi, définit, raconte et les saveurs et l'histoire de la Provence. Puisque il semblerait que les oliviers aient été importés par les Phocéens en Provence, donc il y a quelque chose comme 2600 ans, et qu'ensuite les Romains les aient développés intensivement. Et aujourd'hui, l'huile d'olive en Provence, même si vous voulez, par rapport à des productions espagnoles ou grecques, elle reste assez petite, c'est une huile d'olive absolument merveilleuse. Voilà, et pour moi c'est vraiment la saveur de la Provence.
Alors, j'ai essayé de faire une transition habile entre l'aioli et l'ail, mais manifestement non, l'ail, c'est pas l'ail, le produit provençal par excellence.
Bah, effectivement, mais l'huile d'olive, l'olive c'est aussi quand même quelque chose d'extraordinaire, et pour moi même ça teinte la couleur de ce qui ressemble pour moi, enfin qui me fait le plus ressentir ma Provence, c'est la couleur de l'olive et de l'olivier, ouais.
Donc une couleur plutôt verte
ou vert noir. Gris.
Ça dépend si elle est verte ou noire.
Moi, je dirais vert argenté. Quand vous arrivez devant des oliveraies avec un petit peu de vent dedans et que vous voyez les feuilles des oliviers bouger, vous voyez des petits mouvements verts qui tirent vers l'argenté. Oui, c'est magnifique.
Ça. Vert argenté. Ouais. Alors, vous parlez de couleur. On peut parler d'odeur. Ce serait quoi la première odeur quand on parle des saveurs provençales? Elles se regardent toutes les deux.
Nadia, là, je parlerai de l'ail, ouais. Oui, c'est cette odeur-là, ouais, qui se transmet de plat en plat, mais qui domine aussi, oui.
On arrive à définir l'odeur de l'ail?
Ah oui, c'est
compliqué, non?
Alors moi, j'ai une anecdote très mignonne. Et la personne qui me donne sa recette d'aïoli dans le livre s'appelle Marie-Françoise Colombani, et elle vit dans les Alpilles à Fontvieille, et elle a grandi à Marseille. Et elle m'a raconté que quand elle était petite et qu'elle prenait le bus pour retourner à l'école à 14h le vendredi, ça sentait l'ail dans le bus, vraiment. Et donc, je ne sais pas comment définir l'odeur de l'ail. Disons qu'elle est puissante, hein, mais se dire que les bus à 14h à Marseille le vendredi sentent l'ail, je trouve ça merveilleux.
Retour d'aïoli.
C'est ça, exactement. Puisque en Provence, encore aujourd'hui, c'est le vendredi qu'on mange l'aïoli.
Vous cuisinez, Nadia Samut, un aïgo bouillido. C'est une sorte de bouillon de sauge et d'ail. Mmh. Vous en dites un peu plus? D'ailleurs, vous nous avez proposé très gentiment la recette sur le site, sur la page des bonnes choses.
C'est sauge et ail, effectivement, et c'est le bouillon qui, on dit aïgo bouillido, salvo la vida. Ça veut dire qu'il vient accompagner la vie, régénérer, je pense. Et moi, ma cuisine est basée sur la régénération et cette volonté de faire du bien à son corps et de le réfléchir justement avec des ingrédients que je trouve autour de moi. En Provence, donc, et cet aïgo bouillido, pour moi, je viens le nourrir d'autres choses aussi, mais effectivement, il y a de l'ail, de la sauge, j'y rajoute un petit peu de curcuma, j'y mets aussi du thym et un peu de romarin de mon jardin, et c'est au moment où ça bout, je dirais, qu'on va arrêter cette cuisson et qu'on va venir chercher toutes ces saveurs.
L'ail, vous en faites même un dessert, Nadia, oui. Samut, un gâteau à l'ail noir et au cacao.
Effectivement, j'ai créé une crème comme ça de cacao et d'ail. L'ail noir vient justement sucrer, en fait, une fois qu'il est confit et qu'il est fermenté comme ça pendant 60 jours à peu près, il va venir juste apporter sa sucrosité dans le dessert et on ressentira pas la force de l'ail qu'on a l'habitude peut-être d'avoir, mais justement le côté confit et son sucre naturel.
Alors on parlait des odeurs, des couleurs, des saveurs. On réduit souvent la cuisine provençale, d'ailleurs je l'ai fait pas plus tard qu'il y a une dizaine de minutes maintenant, un peu moins, à une cuisine estivale. C'est bien une vision de Parisien ça, non? Nadia Samut.
C'est celle qui vous fait le plus penser aux vacances, oui, qu'on attend, à mon avis, quand on est ici toute l'année. Mais nous, en fait, c'est une cuisine de annuelle, je dirais, qui est inspirée chaque moment de la saisonnalité de ce qu'on retrouve dans les potagers et dans la campagne autour de nous. L'huile d'olive étant toujours là, puisqu'en fait, on va produire notre huile d'olive pour l'année, l'ail également, mais elle s'inspire en fait des moments et de la saison de nos potagers, ouais.
Quelles sont vos attaches à toutes les deux, à la Provence, Catherine Roig?
Moi, ce sont des attaches amicales. Mais vous savez, je suis catalane par mon père et finalement, c'est très proche. Et l'occitan et le catalan sont des langues proches. Et en Provence, où je vais depuis 20 ans, je me sens chez moi, que les Provençaux me pardonnent, mais je crois qu'ils m'ont adoptée. Voilà.
Non, c'est vrai. Nadia Samut, pour en témoigner. Confirme. Nadia Samut, vous êtes née à Lourmarin, vous, pas très très loin, donc de Cadenet, où se situe maintenant votre auberge. C'est vraiment votre territoire.
Oui.
Le territoire, il est large quand même. Et je voudrais m'adresser à Catherine Roig, puisque dans votre livre, justement, conçu comme un voyage, hein, comme un parcours, vous l'avez découpé en régions. On va des Alpilles à la Grande Bleue, d'Arles et la Camargue à la Haute-Provence, en passant par le Luberon. Alors comment le définir? Comment circonscrire ce territoire provençal? Dressez-nous une sorte de carte régionale. Ça va jusqu'où? Voilà.
Ah, alors là, selon...
Il faut réviser la géographie quand même.
Il faut réviser la géographie, mais aussi l'histoire, parce que évidemment les frontières, si j'ose dire, de la Provence ont bougé. Moi, j'ai adopté dans ce livre, on a décidé de d'abord, malheureusement, vous avez dit tout à l'heure que le livre était lourd, mais il aurait pu l'être deux fois plus si on m'avait laissé libre de couvrir tous les territoires que je voulais. Mais voilà, on a pris les frontières assez récentes de la Provence et non pas de la région PACA. Hein. Donc les Alpilles, parce que c'est un massif calcaire magnifique, très très différent de la Camargue toute proche, qui est comme une île presque de sable et d'eau, de terre saumâtre. C'est vraiment un territoire extraordinaire. Le Luberon, puisque je crois qu'on dit le Luberon, Nadia. Hein.
Ah pardon. Prise en flagrant délit.
Oui, c'est une terre d'ocre, de couleurs, de vergers, une terre extraordinaire. Vous avez aussi toute la côte avec cette Méditerranée quand même extraordinaire du côté de Marseille, ce bleu, ce blanc, cette ville qui est une ville inouïe, Marseille, et la Haute-Provence qui vous fait déjà rentrer dans les montagnes, dans les Alpes, vraiment. Et d'ailleurs, là-bas, dès qu'on y arrive, les toits ne sont plus les mêmes, les toits sont en lauze et non plus en tuiles. La végétation change, vous avez beaucoup plus de châtaigniers, et puis tout d'un coup de conifères, ça n'a rien à voir. Donc on a choisi de découper le livre comme ça, on aurait pu le découper autrement, et j'aurais aimé aller aussi du côté de Moustier, des Gorges du Verdon, de Gigondas. Malheureusement, il fallait bien s'arrêter.
Nadia Samuel, est-ce que chaque territoire défini à l'instant par Catherine Roig a son identité culinaire ?
Ah ben, complètement en fait, et c'est ça qui est exceptionnel dans notre Provence, c'est qu'elle est aussi riche de tous ses territoires, et aller d'une Camargue aux Alpilles, en passant par chez nous dans le Luberon, ou en allant sur la Côte Bleue, on va raconter notre Provence complètement différemment, parce que les ingrédients qui nous entourent en fait sont certainement différents aussi, et on va être inspiré nous sur le territoire différemment, et ces recettes circulent, c'est vrai, on va parler d'une ratatouille peut-être, comme on a pu le dire au départ, mais elle va être... Elle va s'adapter différemment sur les terres, les terres et sur la mer. Par exemple, la bouillabaisse, nous, on va avoir la bouillabaisse borgne dans les terres, qui va être une bouillabaisse de légumes avec du safran et un œuf, parce que l'œuf vient apporter dans la bouillabaisse borgne le borgne, justement. Borgne n'a qu'un œil. Et puis, on va aller vers la mer, et là, on va avoir la bouillabaisse de poisson. Donc, en fait, on est effectivement, on joue comme ça sur les recettes, sur les territoires.
Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, je sais pas, en Camargue, qu'on ne trouve pas dans le Luberon.
Les tellines,
le taureau.
Les tellines, qui sont un tout petit coquillage qui ressemble à une palourde minuscule et très longue, qui se pêche dans les, vraiment, entre eau douce et eau salée, et qui est vraiment, pour moi, très symbolique de la Camargue, où on peut aussi parler de la viande de taureau, naturellement.
Nadia Samuel, le végétal se trouve un peu plus justement dans le Luberon. Votre cuisine, pas seulement, mais quand même assez végétale. Est-ce que c'est aussi parce que vous êtes dans ce coin-là ?
Complètement. Moi, je m'inspire vraiment de ce que j'ai autour. Le potager, je mets mon travail au service du végétal et de la réflexion sur les potagers. Mais on va avoir des élevages aussi autour de nous, pas très loin. Hein. On a le cochon Mangalica qui est à Opède, élevé par un monsieur qui s'appelle Chris. On va avoir l'agneau des Alpilles, pas très loin non plus. Donc, ou de la Croix d'ailleurs, et de Sisteron un peu plus haut. Donc oui, toutes ces choses-là existent. Mais moi, effectivement, je fais une grosse réflexion sur ce que j'ai autour de moi dans mon potager et dans les potagers alentours. Quand je travaille la pêche, elle vient de la Grande Bleue, de Marseille ou de Martigues, mais encore une fois, elle est très respectueuse de la pêche et de ce qu'on peut y faire dans les profondeurs.
Bon, alors on a bien compris qu'il y a des cuisines provençales, mais je vais me faire gronder, hein, surtout par vous deux, Catherine Roig et Nadia Samuel, en parlant d'une cuisine, parce qu'il faut bien aussi catégoriser les choses. Est-ce qu'on dirait que c'est quand même une cuisine avec toutes ses spécificités, sophistiquée, traditionnelle, moderne? Comment la caractériser si on la prend dans son ensemble du territoire, Catherine Roig?
Moi, je dirais qu'elle est tout sauf sophistiquée. Qu'elle est traditionnelle, mais qu'elle évolue. À la grâce du talent des chefs comme Nadia ou des jeunes chefs qu'on peut voir à Marseille ou des particuliers, mais je pense que les traditions restent bien ancrées et elles sont souvent liées d'ailleurs aux fêtes religieuses encore aujourd'hui. Vous voyez, l'aïoli le vendredi, c'est vraiment parce qu'on mange maigre le vendredi, c'est-à-dire pas de viande. Ça peut être aussi la salade de pois chiches le dimanche des rameaux. Les 13 desserts de Provence que tout le monde connaît, c'est aussi lié à la religion. 13 desserts comme le Christ et ses 12 apôtres. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à la religion. Mais voyez, l'aigo bulido. Nadia est très élégante et va parler et parle de ça de façon plus chic que moi. Mais l'aigo bulido, quand on dit c'est le bouillon qui sauve la vie, c'est aussi un remède anti-gueule de bois, hein, soyons clairs. Eh bien, Nadia, c'est vraiment le bouillon de base en Provence. Et Nadia l'a réinterprété d'une façon, pour le coup, disons le mot gastronomique, absolument délicieuse, mais en restant avec ses saveurs très brutes, en fait. Donc, vous voyez, l'ail, les pois chiches, la sauge, tout ça, ce sont quand même des produits très locaux et très bruts qu'on peut transformer de manière intéressante. Donc, elle reste traditionnelle, mais elle évolue.
Nadia Samut.
Moi, je trouve que effectivement, en fait, on l'incarne, on la vit parce que c'est notre culture. Donc, on arrive et on a toute ce patrimoine qui est en nous et qui fait partie de notre culture et qu'on va venir après peut-être changer un petit peu sur des recettes, mais on est toujours inspiré par ces basiques et par ces fondamentaux des goûts, des saveurs, des odeurs de cette cuisine-là, ouais.
Un patrimoine hérité dans votre cas, puisque. Patrimoine familial, hein, c'est une cuisine de famille, une cuisine de grand-mère. Mmh. Dans la famille Samut, je demande la grand-mère, Claudette, puis la mère, Reine, puis les deux sœurs, Julia et vous, Nadia. Donc vous diriez par exemple que c'est une cuisine plus de grand-mère que de grand-chef ?
Ah oui, complètement. C'est une cuisine de cuisinière, de maison, de bonheur, d'amour surtout, en fait, parce que c'est ce qu'on se transmet, nous, dans notre famille, c'est l'amour de l'autre et l'amour de lui faire plaisir, et puis l'amour des gens qui produisent autour de nous. Et effectivement, moi, ça a commencé par ma grand-mère, mais qui venait de Tunisie à la base, donc c'est une cuisine méditerranéenne qui est venue tout à coup s'incarner dans un territoire qui était la Provence, qui est la Provence, et qui a été transmise à ma mère, qui pour le coup vient des Vosges, et qui a été adoptée aussi en Provence. Et puis ben moi je suis arrivée en troisième génération avec ma sœur Julia et ouais la Provence c'est notre territoire ouais.
Midi et quart dans les bonnes choses sur France Culture, on vous retrouve dans quelques minutes, on va laisser passer la Madeleine par Matteo Carantard.
Le pastis c'est une boisson pour les grandes personnes mais après si on en boit trop comme mon papy il adore ça. Il en boit plein. Si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Mais alors j'aime ça quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe.
Matteo Caranta qui aujourd'hui nous propose un clin d'œil à la Chandeleur qu'on ne voulait pas oublier.
Effectivement, le 2 février, c'était la Chandeleur. Vous savez, cette fête très ancienne qui remonte aux origines du christianisme et où, selon la tradition, on mange des crêpes. Alors nous avons cherché dans nos madeleines et nous avons trouvé celui qui, mieux que quiconque, nous parle de la crêpe de son enfance. Et qui d'autre que Jacques Weber pour nous faire frissonner de plaisir et d'envie de crêpe, je vous le demande.
Ma madeleine, bien évidemment, se passe dans ma plus tendre enfance, dans une famille où il n'y avait pas énormément de moyens. Ma mère tenait un cahier de compte. On avait de la viande tel jour, du poisson tel autre jour, des frites tous les 15 jours. Et tout commence par une odeur très, très repérable qui était celle des crêpes qu'elle pouvait préparer une fois lorsqu'on avait eu des très bonnes notes ou lorsqu'on devait être récompensé ou lors d'un anniversaire. Et elle avait ajouté à ses crêpes, donc il y a l'odeur des crêpes qui est tout à fait reconnaissable. En plus, elle les faisait à l'ancienne, elle prenait son temps, elle faisait sa pâte la veille. Et donc, il y avait déjà une odeur qui se déposait dans tout l'appartement. Et puis, surtout, elle avait, non pas inventé, mais elle avait dû repérer une recette. Elle mettait des tout minuscules zestes de pelure d'orange et de citron. D'abord, il y a une onctuosité dans le fait même de la crêpe, avec ce goût très direct du sucre, et puis quelque chose d'un peu comme ça acidulé qui est là, et juste pour relever le tout, qui passe pas tout à fait au premier plan. Quand on avale la bouchée, il y a d'abord, c'est magnifique, c'est très sensuel, la texture de la crêpe, ça c'est quelque chose d'inouï. Alors, quand vous faites la crêpe au sucre et aux zestes d'orange, vous avez, dans un premier temps, parce que moi je travaille par grosse bouchée, enfin par très grosse bouchée. Il y a d'abord cette chose très très sensuelle qui vous prend toute la bouche, après se détache le sucre, donc sucré, Et après, l'aigreur, l'aigre de l'orange ou du... Et là, on est dans un peu dans un rapport oriental, quoi. Parce que en Orient, on aime beaucoup le sucre et salé. Et là, il y a quelque chose entre le sucre, non pas le sel, mais cette chose un peu aigre, comme ça, un peu piquante, que moi, je trouve absolument magnifique. Mais c'est extrêmement difficile, l'équilibre. Parce que si vous êtes trop orange ou citron, c'est foutu. Et je n'ai jamais retrouvé cette recette nulle part. Alors, pour essayer de retrouver un peu ça, parfois, je prends une crêpe au sucre, et puis juste après, je bouffe une mandarine ou une orange, une chose comme ça, pour retrouver un peu ce petit mélange. Mais je ne l'ai jamais retrouvé.
Voilà, la madeleine, la crêpe au sucre, légèrement relevée et sophistiquée pour le coup, du comédien Jacques Weber. Catherine Roy, Nadia Samut, est-ce qu'on mange des crêpes en Provence? Nadia, ça regarde à nouveau.
Je vous laisse répondre, Nadia.
À la Chandeleur, on mange des navettes.
C'est ça.
Moi, je l'ai
c'est
fait.
C'est quoi les navettes?
Vas-y. Ah, les navettes, ce sont des petits biscuits en forme de nave. De bateaux en fait, très très typiques de Marseille et qui sont un peu casse-dents. Hein. Tout dépend de la recette. Si on y met, c'est un biscuit sans levure. Il est censé pouvoir voyager sans encombre et donc il est très dur. Donc on le trempe dans le café, on le trempe dans le thé, voilà. Et effectivement, on le mange en février au moment de la Chandeleur.
Jacques Weber parlait du sucré-salé. Est-ce que là, les cuisines provençales elles sont des cuisines salées, plutôt sucrées. Vous trouvez, Catherine Roy, dans votre livre, que finalement, s'il y a quelque chose qui ne devrait pas être très très bon à la cuisine provençale, c'est les desserts. Alors là, vous n'allez pas faire plaisir à Nadia Samut, qui cuisine beaucoup de desserts, il y en a beaucoup dans son livre.
Oui, mais Nadia, je crois que ça relève aussi de son travail sur les farines sans blé. Et donc, elle a élaboré un travail extrêmement... approfondi sur les farines de châtaigne, de riz, de sarrasin, etc., avec lesquelles elle crée des recettes proprement nouvelles. Voilà, donc je pense que ça explique aussi son travail sur le sucré, mais je pense qu'effectivement, la Provence n'est pas un pays de pâtisserie, en tout cas, comme on pourrait le dire de l'Alsace. En même temps, la Provence est tellement riche en fruits. Il y a des fruits extraordinaires, que ce soit les cerises des monts de Venasque, que les melons de Cavaillon, même les poires Sarteau de la Javie en Haute-Provence sont des toutes petites poires qu'on utilise pour faire les fruits confits. Alors ça va être peut-être plus des confiseries comme le nougat ou les calissons, mais en pâtisserie, Nadia, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais je suis pas sûre que ce soit un grand territoire de pâtisserie.
Nadia Samut.
Après, j'ai pas les plus grands souvenirs. Moi, j'ai effectivement inventé des pâtisseries et parce que j'utilise des farines différentes, parce que j'utilise l'amande aussi d'une façon différente de ce qu'on pourrait nous proposer. Je fais des laits d'amande, je fais des crèmes d'amande et puis là, je commence à monter tout un écosystème de goût et de saveurs. Je travaille beaucoup le pois chiche et je porte des filières d'ailleurs sur le pois chiche et je les réfléchis dans le sucré comme dans le salé. Je fais une glace au lait de pois chiche avec un miel et des chouchous de pois chiche et une tuile de pain au pois chiche par exemple, et tout ça, oui, ça crée une pâtisserie, je dirais même complètement provençale, complètement intégrée dans mon territoire, parce que je n'utilise que des ingrédients que je trouve autour de moi, encore une fois, mais elles ne m'ont pas été transmises. Par contre, on a la fougasse, on a le gibassier, nous, à Lourmarin.
Ça fait partie des 13 desserts.
Exactement, avec l'huile d'olive et tout ça, mais c'est pas des pâtisseries effectivement très élaborées comme on peut les voir. Ouais.
Et puisque vous êtes une créatrice, Nadia Samut, vous avez aussi inventé un Paris Lourmarin. Alors, il est fait de quoi, ce Paris Lourmarin?
Encore une fois, le Paris Lourmarin, déjà, il est arrivé au départ de mon travail, il y a déjà 7 ans, comme une réflexion sur la pâtisserie traditionnelle française, en disant qu'on pouvait justement faire rentrer les codes d'une réflexion sur les différentes farines, sur le lait aussi, parce que moi je suis intolérante au lactose aussi, et donc j'avais envie de rentrer par les grandes portes de la pâtisserie en réfléchissant justement comment l'interpréter ou le réinterpréter avec autant de panache et de réflexion. Donc je suis arrivée sur une pâte à choux à la farine de pois chiche et de riz de Camargue, une crème pâtissière qui est justement montée au tofu de pois chiche qu'on appelle le tohu en Birmanie, et praliné également, que je fais avec des noisettes du pied pour le coup, et un sucre de coco, et puis j'ai foisonné tout ça avec un beurre végétal que je monte également à l'amande et à l'huile d'olive.
Vous faites aussi des graissins à la farine de riz noircie par du charbon.
C'est vrai. Je fais des choses comme ça aussi.
Du pain à la farine de châtaigne.
Oui.
Et un certain nombre de recettes, hein, de toute façon, à la fin de votre livre, qui est une forme de retour sur votre parcours, Nadia Samut, et sur la façon dont vous avez renversé justement une difficulté, puisque vous êtes atteinte de la maladie cœliaque, intolérante totalement au gluten, renverser donc ce qui était pour vous un handicap au départ et une maladie difficile à surmonter, en création, en audace culinaire et en plaisir. Du coup, vous avez trouvé une vraie gourmandise aujourd'hui, dont voilà, vous nous faites part à la ferme de Cadenet. Catherine Roig, dans votre périple, beaucoup de gens n'ont pas arrêté de dire que le coin était leur Madeleine de Proust.
Oui, et le coin est très présent en Haute-Provence, notamment et dans le Luberon. Un jour, un monsieur m'a dit que quand il était petit, qu'il sortait de l'école, son goûter préféré, c'était le pan koudoun, qu'on pourrait traduire par le pain coin. En fait, quand il restait un peu de chute de pâte du pain dans les boulangeries, les boulangers prenaient ces chutes de pâte et reconstituaient, et mettaient des morceaux de coin dedans, ou un coin entier s'il n'était pas trop gros, et enrobaient le tout de pâte à pain et faisaient cuire ça au four avec un peu de sucre. Ça caramélisait et c'était absolument délicieux. Alors, on a du mal à le trouver aujourd'hui dans les boulangeries. Je vous avoue que j'en ai fait à peu près 50. Mais la recette existe, on la trouve, et je l'ai réalisée pour le livre et c'est vraiment délicieux.
Et d'ailleurs, vous dites que l'une des saveurs les plus importantes en Provence, dont on n'a pas encore parlé, ce sont les fruits confits. Je ne sais pas si on fait des coins confits.
Je n'en ai pas vu. Je vous dis ce qui est, mais j'ai vu des petites poires, ces petites poires Sarto, qui sont vraiment toutes petites, qui font quelques centimètres de hauteur, qui sont confites. Le coin, je ne l'ai pas vu confit.
La pâte d'abricot.
La pâte de coin, bien sûr, l'abricot, le melon, l'ananas, qui pousse pas forcément en Provence, mais en tout cas, ça, des agrumes, et c'est extraordinaire, et ça reste très très vivant dans la ville d'Apt. Il y a encore quelques artisans, il y a aussi une grande manufacture qui s'appelle Aptunion, qui a rassemblé, et moi j'ai vu la fabrique des fruits confits, en fait la technique n'évolue pas. L'idée étant de remplacer l'eau du fruit par du sucre, ça prend entre 10 jours et 3 semaines selon le fruit. Et même si c'est produit à plus grande échelle, ça reste un délai. Alors ce qui est merveilleux, c'est de goûter le fruit confit quand il sort de ces 3 semaines de confisage. C'est extraordinaire. Je pensais ne pas aimer les fruits confits avant ça, et là j'ai croqué dans un abricot, mais la substantifique moelle de l'abricot, c'était magnifique.
Il faut voir les yeux de Catherine Roig qui se lève au ciel en parlant. Alors, je vous avoue qu'en en feuilletant votre livre, Catherine Roig, Provence, food trip ensoleillé en 100 recettes, je me suis arrêtée presque par hasard, je me suis arrêtée sur la recette du thion de courge aux olives que j'ai essayé de faire hier soir et je me suis régalée. Cette recette, il se trouve, alors ça c'est un hasard, coïncidence parfaite, que quand on vous a demandé de nous laisser aussi gentiment une recette sur la page des bonnes choses, eh bien c'est celle-ci que vous avez proposée.
Oui, parce que d'abord je l'ai trouvée formidable, elle est réalisée par la chef Nadia Tamala, qui tient un tout petit restaurant pas très loin de chez Nadia Samut à Maubec, un restaurant qui s'appelle Mama, qu'elle tient avec sa fille Claire. C'est un restaurant magnifique où on mange très très bien pour 17 €, et elle m'a fait cette recette. Et ça répond tout à fait à la question que vous posiez tout à l'heure, Caroline. Vous disiez la cuisine provençale n'est pas seulement estivale. Non, c'est aussi une très belle cuisine hivernale, très rustique, avec beaucoup de courges, beaucoup de cardes, beaucoup de blettes, par exemple, qu'on peut cuire en tian comme ça. Et puis, évidemment, Nadia n'en parle pas parce que c'est une forme de blé. Le petit épeautre, qui est une céréale, qui est la plus ancienne céréale cultivée par l'humanité et qui est présente en Provence depuis 9000 ans. Donc, elle avait été un peu délaissée depuis la guerre. Et aujourd'hui, depuis, je dirais, 30 ou 40 ans, il y a des agriculteurs qui se sont penchés dessus. C'est une céréale délicieuse qui a un goût de noisette, un petit blé très fin. Avec lequel on peut faire plein de choses. Et je vous recommande le petit épeautre qu'on trouve facilement aujourd'hui.
Eh bien, un grand merci à toutes les deux de nous avoir fait voyager en Provence ce midi. Provence, food trip ensoleillé en 100 recettes avec les photographies d'Emmanuela Sino. C'est votre
formidable photographie.
Très, très beau livre, je le redis. Et puis, Nadia Samut avec Paul Masson et les photos d'Anne-Claire Hérault. Construire un monde au goût meilleur, c'est chez Actes Sud. Merci à toutes les deux.
Merci Caroline.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis, les techniciens du jour Stéphane Foulon, Michel Gassic, Alexandre James à la production Dominique Allard. Nous vous souhaitons tous un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ce sera le journal suivi de Signes des temps par Marc Weitzman en direct ici même de l'espace Cardin Théâtre de la Ville. Mais dans un instant, ce sera le journal.